du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Lundi 10 août, soyez les bienvenus, bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner pour ce Présence Midi. Ça y est, le programme officiel du voyage apostolique du pape Léon XIV a été publié. Bonjour David Torchala.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes, et on va détailler dans quelques minutes avec vous ce programme qui est désormais officiel.
Ça y est, c'est désormais officiel, enfin on le savait, mais maintenant on sait vraiment avec précision toutes les étapes de ce pèlerinage à Lourdes du pape, ça s'annonce un très très bon moment.
Et puis à la fin de cette semaine, ce sont des milliers de pèlerins qui vont arriver à Lourdes pour le 153e pèlerinage national de l'Assomption. On en parlera également avec vous.
Ah oui, il y a du monde arrive cette semaine, et puis en plus il va faire chaud, donc il va falloir prendre soin de tout le monde. Voilà.
Autre événement cette semaine, eh bien c'est l'éclipse. Est-ce que vous avez acheté vos lunettes solaires, David?
Alors non, j'ai pas acheté de lunettes, et apparemment c'est difficile d'en trouver en tout cas. Ici à Lourdes, c'est dur, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Eh bien en tout cas, on va en parler avec notre spécialiste, notre expert presque. C'est Philippe Pouzet qui sera avec nous, c'est le président de l'Astroclub Lourdes, et il va nous donner tous les conseils pour observer cette éclipse, une éclipse qui va commencer aux alentours de 19h mercredi, éclipse quasiment totale sur Lourdes, avec plus de 99% aux alentours de 20h28, il va vraiment nous donner tous les conseils observer cette éclipse. Et puis dans l'émission de Passage Lourdes, Mathias recevra Guy-François Saling qui a demandé et reçu le baptême, et il avait vécu une conversion à ses 18 ans, et c'était à Lourdes. Voilà pour les grandes lignes et le sommaire de cette émission qui débute avec l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres à la une et Clémence Roux.
Bonjour à tous. En Haute-Garonne, les producteurs de fruits sont durement touchés par les épisodes de canicule. Certaines récoltes enregistrent des pertes pouvant atteindre 25%. La sécheresse affecte également la faune sauvage en Aveyron. Le manque d'eau et les fortes températures compliquent les conditions de vie de nombreuses espèces. À Toulouse, les Clarisses célèbrent aujourd'hui la solennité de Sainte-Claire avec plusieurs temps de prière prévus aujourd'hui et demain. Dans le reste de l'actualité, l'Ariège séduit les passionnés d'escalade. Des grimpeurs venus de toute la France profitent de nombreux sites qu'offrent les Pyrénées. L'Occitanie compte également 10 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des vestiges antiques aux espaces naturels au patrimoine. Enfin, à Toulouse, Léon Marchand continue d'inspirer les jeunes nageurs 2 ans après ses exploits aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà pour les titres de l'actualité. Belle journée à tous sur Radio Présence.
Merci Clémence Roux. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal régional.
Dans le Lauragais, 97.9.
Le programme officiel du voyage apostolique du pape Léon XIV en France est publié depuis vendredi. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Torchala. Rebonjour David.
Rebonjour Gilles.
Vous êtes le directeur de la communication et des ressources au sanctuaire de Lourdes. Ça y est, du 25 au 28 septembre, eh bien, le pape sera en France. Voyage qui sera composé de 5 étapes.
Et oui, il y aura Paris, Lourdes et puis Metz, mais je suis sûr que l'étape de Lourdes sera la plus belle, évidemment.
Voilà.
Parce qu'on y croit très fort, et ça sera très beau, parce que évidemment il y aura tout ce grand programme à Paris, mais dès que le Saint-Père quittera la place de la Concorde, les Champs-Élysées, eh bien il s'envolera pour Lourdes, et il arrivera à l'aéroport international Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur les coups de 19h. Ça sera samedi 26 septembre, avec une belle belle cérémonie, en tout cas, d'accueil. On attend des enfants, on attend aussi des personnes malades, des personnes handicapées, pour que tout de suite il ait le signe, en tout cas, de ce qu'il va vivre comme pèlerin parmi les pèlerins, et qu'il voit, en tout cas, la réalité sur cette terre de Bigorre. Alors, dès qu'il sortira de l'aéroport, il se rendra directement, où ça? Eh bien, à la grotte. Et ça, c'est très beau pour une prière personnelle, pour pouvoir accomplir les gestes du pèlerin, qui sont les mêmes pour tous, que l'on soit pape ou que l'on soit un simple pèlerin, c'est-à-dire toucher le rocher, boire de l'eau, déposer un cierge, et puis voilà, que le pape puisse avoir aussi un temps de prière personnelle. C'est un programme qui est très court en soirée, hein, du fait de cette journée extrêmement chargée avec le programme parisien, pour avoir un temps de repos et vraiment nous faire vivre ce dimanche 27 septembre qui sera de fait historique. Dimanche matin à 9h, il rencontrera l'ensemble des évêques de France depuis l'hémicycle Sainte-Bernadette, le lieu habituel des assemblées plénières des évêques qui ont lieu deux fois par an. Il donnera un discours et puis la tant attendue messe dominicale sera, elle, à 11h sur la prairie du sanctuaire. Elle sera suivie de la prière de l'Angélus. Donc 11h du matin, il va falloir arriver tôt pour venir à la messe, mais il y aura évidemment de la place pour tous. Et puis toujours dans ce programme, l'après-midi du dimanche 27 septembre à 15h30 exactement, il rencontrera les hospitaliers, les personnes malades et pourra dire un grand discours attendu à l'accueil Notre-Dame, cette résidence médicalisée qui permet aux pèlerins malades de pouvoir séjourner le temps de leur pèlerinage à Lourdes. C'est un lieu très emblématique au sein du sanctuaire. Et puis une rencontre d'ordre privé qui, en fin d'après-midi, se tiendra au monastère du Carmel de Lourdes, avec la présence des religieuses de vie contemplative. Les moniales de Lourdes se rassembleront au Carmel pour vivre ce temps de rencontre privée avec le pape. Et puis le soir, cette grande procession mariale au flambeau, eh bien, elle sera vécue avec le Saint-Père, 21h, sur la grande esplanade du sanctuaire. Et ça, c'est ainsi que se terminera le programme de cette belle journée. Donc il faut retenir un temps à la grotte la veille au soir, une très belle messe le dimanche matin et une magnifique procession en soirée. Et donc ça fait beaucoup de préparatifs à faire, mais on est prêt, on s'y attelle.
Voilà. Alors est-ce qu'il faut s'inscrire pour venir à Lourdes?
Oui, la réponse est oui, vraiment. L'inscription, elle n'est pas obligatoire, mais vraiment, 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 on vous le dit avec le cœur, c'est fortement recommandé. Là, depuis midi, vous pouvez maintenant vous inscrire sur le site internet du sanctuaire. Si vous êtes seul, que vous venez avec votre époux, en famille, avec les enfants, avec les voisins, avec les amis, si vous formez un petit groupe de moins de 10 personnes, oui, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Ça nous permettra de pouvoir entrer en contact avec vous et vous envoyer des informations pratiques pour vous dire, partez plutôt dans cette direction, utilisez tel parking, utilisez telle navette, etc. Parce qu'il faut évidemment imaginer que ça ne sera pas comme d'habitude. On ne pourra pas venir comme ça spontanément se garer juste à côté de la porte d'entrée du sanctuaire. Il y aura évidemment tout un dispositif de sécurité autour du sanctuaire, mais bon, il faudra emprunter les navettes et aller se garer au bon parking. Ce ne sera pas très compliqué, mais il faudra quand même suivre les informations que nous vous donnerons. Et puis aussi, pour les groupes de pèlerinage, vous qui nous entendez, qui êtes dans une paroisse, qui êtes proche d'une famille religieuse, formez des groupes, venez, c'est totalement possible. Et puis là aussi, il faut s'inscrire et ça nous permet vraiment de pouvoir quantifier le nombre de personnes venues qui vont se présenter à nous. Ça nous permet d'adapter le dispositif et puis réussir l'accueil de chacun le jour J.
Les inscriptions évidemment sont gratuites. Par contre, le financement du voyage du pape repose essentiellement sur la générosité des donateurs.
Oui, parce qu'il y a énormément de frais qui reposent sur le sanctuaire. Vous savez, ce sont des aménagements qui sont exceptionnels. Je pense notamment à tous les frais de diffusion des images, des frais de télévision, de sonorisation, d'écran géant, etc. Il faudra évidemment construire un podium, il faudra évidemment assurer les navettes, la sécurité, etc. Donc oui, bien sûr que l'inscription est gratuite, parce que tout le monde entre gratuitement dans le sanctuaire, mais ceux qui le peuvent, vous pouvez déjà adresser vos dons pour nous soutenir dans le financement du voyage du pape sur le site internet du sanctuaire.
Voilà, donc le pape, on le rappelle, arrivera le samedi à 19h. 19h arrivé à l'aéroport donc international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, puis aux alentours de 19h40 il sera en prière devant la grotte des apparitions, puis la grosse journée, vous l'avez détaillé, c'est dimanche 27 septembre. Tous ces week-ends sera évidemment à suivre sur Radio Présence, puisqu'on va se mobiliser pour ceux qui ne pourront pas venir, mais on encourage les gens à venir évidemment.
Mais si j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude, pour ceux qui viennent pas, ils ne sont jamais oubliés, il y a toujours une mobilisation par la radio, par Radio Présence, par le site internet, les réseaux sociaux, promis, si vous pouvez pas venir, on va vous faire vivre l'événement.
Autre mobilisation, il y a autre événement, c'est à la fin de cette semaine, ce sont des milliers de pèlerins et d'hospitaliers bénévoles qui sont reconnaissables à leur gilet bleu, qui vont investir la cité mariale pour le 153e pèlerinage national de l'Assomption.
Oui, 153e, c'est dire qu'ils ont l'habitude d'organiser ce pèlerinage, ils sont plus de 7000 pèlerins de la famille de l'Assomption à venir à Lourdes. C'est vrai, vous avez raison Gilles, ils portent de beaux gilets bleus, en tout cas ces bénévoles, ils sont nombreux, ces hospitaliers de Notre-Dame de Salut sont 3500 pour voilà venir s'occuper des personnes malades, des personnes âgées, de tous ceux qui ont besoin de soutien le temps du pèlerinage. Ça va être un très très beau 15 août que nous allons vivre là. Alors évidemment, il s'inscrit dans un temps de préparatif du pape, mais on arrête le temps de tous les préparatifs pour vraiment vraiment se consacrer au 15 août et l'accueil des pèlerins du pèlerinage national. Ils nous ont encore fait une nouvelle fois une très belle proposition de programme, et avec toutes les équipes du sanctuaire, eh bien nous vivrons de très belles célébrations. Vraiment, je vous invite vendredi 14 août, venez, c'est la procession mariale, c'est une des plus belles processions de l'année. Elles sont toutes belles, je veux dire, mais celle du 14 août est particulièrement réussie. Et puis le 15 août, donc la messe à 10h, alors messe de l'Assomption, évidemment, c'est une solennité, alors habituellement elle est dite sur la prairie, mais en fonction du temps et de la canicule, on reste en vigilance, peut-être qu'il faudra se réfugier à la basilique souterraine Saint-Pédis, mais en tout cas, l'heure ne change pas, c'est 10h la messe, suivie de l'Angélus à midi, à 15h, prière pour la France, et puis pour le monde, avec suivi d'un chapelet à la grotte. Ça va être un très beau temps pour chacun. Il y a plein d'informations qui sont à retrouver sur le pèlerinage national, et puis même si vous ne faites pas partie du pèlerinage national, évidemment, venez, les portes sont grandes ouvertes pour chacun de vous.
Voilà, venez à Lourdes pour le 15 août, et pour ceux qui ne pourront pas venir, eh bien sachez que Radio Présence, eh bien on retransmettra cette messe internationale. Nous serons en direct de Lourdes samedi à 10h avec vous.
Oui, David. Moi je ferai bien les commentaires pour essayer de vous expliquer tout ce que vous pouvez voir à la radio. Ça sera Monseigneur Jean-Paul Vesco, le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, qui présidera cette messe.
On entend une actualité chargée, hein, de beaux événements à venir pour le sanctuaire de Lourdes. Cette actualité, on la retrouve sur lourdes-france.com, et nous on se retrouve bien samedi, David, pour la messe,
samedi,
en direct de Lourdes.
Pas de problème, je serai là, j'espère que vous aussi.
Allez, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Merci David, bonne semaine.
Bonne semaine.
Présence à Aurignac, 94.1.
Dans un instant, c'est Philippe Pouzet, le président de l'Astro Club Lourdes, qui va nous donner tous les conseils pour observer l'éclipse solaire qui va se dérouler, je vous le rappelle, ce mercredi soir à partir de 19h. Cette éclipse qui sera quasiment totale sur Lourdes à plus de 99%. On en parle avec lui dans un instant, avec lui et Philippe Subercase.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Le 12 août prochain, il y aura un événement dans le ciel, c'est une éclipse solaire. Et pour nous parler de cette éclipse et cette nuit des étoiles filantes, quel plaisir de se retrouver presque une fois par an avec vous, Philippe Pouzet, bonjour.
Bonjour Philippe, le plaisir est vraiment partagé.
Merci d'être là, vous êtes le président d'une très belle structure associative, l'Astro Club Lourdes, avec un record, deux records, ouais, sur les nuits des étoiles filantes, record national de fréquentation.
C'est ça, on avait eu deux records de 1300 personnes qu'on avait fait monter au pic du GER. À l'époque, c'était il y a quelques années de cela, ouais, et c'était plutôt magique et assez exceptionnel.
Assez exceptionnel, effectivement. Et puis, vous faisiez aussi pendant l'été des découvertes du soleil, l'observation, voilà, du soleil. Vous, exactement, êtes un spécialiste du soleil puisque plusieurs fois par an, vous montez au pic du Midi, passez une semaine.
Voilà, en mission sur les télescopes solaires qu'on appelle le télescope CLIMSO, qui nous permet d'observer le soleil en plusieurs dimensions, surface et couronne. Et on fait des images constantes quand on y est, du lundi au lundi, et le but c'est d'avoir le plus d'images possible et de voir comment va le soleil.
Et alors comment il va? Est-ce que vous en sortez?
Alors j'en sors justement, il est très calme actuellement, il a des bouffées d'énergie, parce que là en fait on quitte le cycle exceptionnel, il a 11 ans de cycle, et là on descend, on termine le cycle fort de 11 ans donc, maximum, donc on va tomber tranquillement, on va arriver sur le cycle minimum solaire, donc il y aura moins de tâches, moins de protubérances, ça ne veut pas dire qu'il va pas chauffer, hein, il va chauffer encore pas mal, mais lui, il sera beaucoup moins actif, mais parfois il peut avoir des bouffées d'énergie très importantes, et c'est ce qu'on surveille depuis le pic du Midi.
D'accord, et je pense que malgré tout, vous avez toujours aussi l'œil émerveillé de cette boule de feu qui...
Complètement.
À qui on doit la vie.
Mais c'est ça, exactement. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Pas trop près pour être brûlé, pas trop loin pour être complètement refroidi. On est à une très bonne distance pour que sur la Terre, il y ait de l'eau. Et tout ce qu'il faut qu'il y ait la vie. Et voilà. La vie que nous avons aujourd'hui, puisque nous arrivons à nous parler en face à face.
Exactement, et même à travers les ondes.
Exactement.
La magie est incroyable, elle est complète,
là on a tout.
Allez, on parle de cette journée du 12 août, oui. Et cette plutôt fin de journée, c'est puisque ça. L'éclipse devrait être à son apogée à 20h28.
Voilà, c'est ça. Pour Lourdes, c'est cette heure-là, donc elle va commencer une heure avant. Aux environs de 19h, 19h15, 19h30, il faudra surveiller, avec les fameuses lunettes solaires.
Alors ça, il faut le dire de suite, voilà. Ne regardez pas le soleil sans protection.
C'est ça. Pas avec votre simple paire de jumelles,
lunettes. Soleil,
ouais. Surtout pas avec une paire de jumelles. Ouais. Hein, vous mettez un filtre n'importe quoi devant, non, ça marche pas. Vous allez de suite vous brûler la rétine. Quand je parle brûler la rétine, c'est-à-dire vous prenez la paire de jumelles, vous regardez le soleil avec, vous posez la paire de jumelles, il suffit que d'une seconde, hein. Là vous venez de vous brûler le fond de votre rétine. Dans une heure vous allez avoir très très mal à la tête, et dans les heures qui vont suivre vous allez vous rendre compte que vous perdez la vue. Donc ça, on joue pas avec le soleil, il faut surtout pas observer le soleil dans ces conditions. On a des lunettes solaires qui nous permettent tranquillement de chausser ces lunettes solaires et de regarder le disque solaire qui va être mangé. Alors à partir de 19h30, on va se rendre compte que le disque solaire lumineux va être mangé par quelque chose de noir qui va s'approcher. Et qui va, on aura le fameux premier contact, donc une heure avant l'éclipse totale. Et puis on va voir progresser ce petit ombre noire. Et cette ombre noire, en fait, c'est la Lune. Qui vient se positionner entre nous, les terriens, et notre étoile, le Soleil. Et tranquillement, la Lune va continuer pendant une heure son petit trajet pour venir cacher, alors pas complètement, le disque solaire, puisque sur Lourdes, nous sommes en éclipse dite partielle. Et surtout toute la France, en fait, hein, on est partiel. Pour Lourdes, c'est 99,077%. Voilà, exactement.
C'est ce qu'on lui dit tout à l'heure.
C'est bien. Et plus vous montez vers Paris, tout ça, vers le nord de la France, et bien moins elle est visible. Par contre, plus vous descendez, plus elle est totale. Et donc, si vous avez l'opportunité le 12 août d'être dans les parages, d'avoir une voiture, 100 km après Lourdes, vous allez en Espagne.
Vers l'Espagne,
et nord de l'Espagne. Et là, vous l'avez totale. Et alors, si vous l'avez jamais vue totale, vraiment, et si vous êtes en repos le 12 août, allez-y. Vraiment, c'est ce que je vous dis. Allez-y. On a deux voitures du club d'astronomie qui partent sur la ligne de totalité. Voiture, c'est-à-dire, il faut être mobile. On a un problème en Espagne à cette période-là. Il y a les feux de forêt.
Oui, d'accord.
Avec les nuages, les poussières qui vont gêner. Et puis, il y a les orages du soir qui peuvent être très durs en Espagne à cette période-là. Donc, il faut être mobile sur la ligne de totalité, qui fait 100 km de large. Donc quand même, on a la possibilité. Plus vous êtes dans le centre de totalité, plus vous la verrez totale, et plus vous remontez ou vous descendez, ben elle devient partielle.
Alors c'est bien sûr, hein, on le rappelle, la Lune effectivement qui va venir cacher le Soleil pendant quelques instants. Ça dure combien une éclipse, hein?
Une éclipse, alors là on est à 2 minutes et quelques sur la totalité de l'éclipse.
D'accord. Hein,
donc ça commence une heure avant et ça continue une heure après. Sauf que là, alors il y a un côté esthétique qui sera très beau. Si vous êtes dans Lourdes, trouvez un sommet. Alors voilà, un petit tuyau qui est tout simple. Ah. Pourquoi ? Parce que ben, au Pic du Gers, on est complet. Il y a une jauge de sécurité. Ça y est, elle est pleine depuis déjà plus de 15 jours, 3 semaines. Donc, si vous voulez observer cette éclipse, un, il vous faut les lunettes solaires. Et ensuite, vous trouvez un horizon ouest dégagé, c'est-à-dire un coucher de soleil. Il faut que vous puissiez voir le coucher de soleil dégagé. Si, par exemple, vous, deux jours avant, vous trouvez un horizon, vous montez sur cette petite colline, je cite pas de colline, pour pas qu'il y ait trop de monde, mais vous êtes sur cette colline et vous voyez le soleil se coucher, et vous le voyez à 21h30, 22h se coucher, ben là, vous avez trouvé le bon site. Parce qu'une heure avant, 20h30, lors de l'éclipse partielle, ben vous pourrez voir cette éclipse dans sa totalité, dans sa partialité, en fait.
Alors, nous sommes diffusés sur toute la région,
oui,
ex-Midi-Pyrénées,
oui,
Toulouse, Cahors, Figeac, Montauban, le Gers. Là, nous, à Lourdes, vous nous dites c'est 99,077. Est-ce qu'on reste à peu près dans ce niveau-là sur Toulouse ?
Alors, Toulouse, ça sera un peu moins ? 98% et quelques, ça sera assez joli quand même, toujours partiel, mais assez joli. Là, c'est pareil, dans quelque endroit que vous trouvez dans l'Occitanie, trouvez un horizon ouest dégagé, c'est-à-dire le site du coucher de soleil. Il faut qu'il soit en face de vous. Donc, vous, il faut que vous soyez à l'est, d'accord ? Et que vous puissiez voir le soleil se coucher. Ce qui est très simple à faire, deux jours avant, repérez où le soleil se couche. Et à partir de là, ben, vous avez trouvé le bon site.
Voilà.
Ça, c'est très bien.
On le voit doucement.
Voilà, tranquillement se coucher.
Voilà. Et il ne faut pas être derrière un bâtiment.
Et non, voilà.
Parce que sinon, vous ne le verrez pas.
Exactement.
Et c'est, après 20h28...
Alors là, c'est la totalité.
C'est la totalité. Bon, là, les jours sont bien présents,
oui,
donc
alors,
on le verra.
Ce qui peut être joli à voir, esthétiquement, ce qui va peut-être être joli, on ne va pas perdre de baisse de luminosité très importante, mais on risque d'avoir une petite baisse, en fait. En fait, c'est ce qu'on dit, peut-être deux couchers de soleil, en définitive. Premier coucher de soleil à 20h27, lors de l'éclipse, pour nous, partielle, complète partielle. Et puis... Donc, il faut comprendre qu'à 20h28, ben, la Lune va repartir dans le sens opposé tranquillement et le Soleil va réapparaître.
Et là, après, il va se coucher.
Et là, il va se coucher après.
Ouais.
Donc, c'est ce qui risque d'être beau esthétiquement parlant. Il y a de la beauté dans l'astronomie. Et cette beauté-là, en fait, il faut monter, il faut s'arrêter, il faut prendre les lunettes de l'éclipse et puis se laisser porté par cette beauté de l'éclipse que vous allez vivre devant vous.
Et si on veut se garder un souvenir, comment on fait pour prendre des photos magnifiques ?
Ça va être difficile à faire. Alors essayez peut-être avec votre fameuse lunette de prendre votre appareil, de mettre la lunette devant et d'essayer de voir si vous arrivez à avoir... C'est assez compliqué. L'idéal, c'est que vous bougiez pas, donc avec un petit pied photo, ça pourrait être peut-être pas mal. Mais mettez quelque chose devant l'objectif. Sauf aux environs de 20h15, parce que là, il y a pas mal de lumières qui seront cachées au niveau du soleil, hein, et donc peut-être que votre obturateur tiendra le coup. Mais faites attention.
Alors, les éclipses, c'est un phénomène, effectivement, qui ne revient pas souvent, donc c'est exceptionnel.
Mais nous avons une chance.
Ah.
C'est qu'il faut absolument que vous gardiez les lunettes que vous allez acheter là, actuellement.
Parce
qu'elles seront valables là, pour l'éclipse du 12 août. Je vous donne rendez-vous dans un an, le 2 août 2028. Il y aura une prochaine
27.
Éclipse. 27. Il y aura une prochaine éclipse totale en Algérie-Maroc. Et donc, sur Lourdes et sur la France, elle sera encore partielle.
Mais.
Pas à 99%, mais à 80%. Ce qui sera assez joli. Donc, ça veut dire que vos lunettes serviront. Et c'est pareil en 2028. Il y en aura une autre, encore un peu plus basse, mais votre paire de lunettes va servir trois fois.
D'accord.
Dans les trois ans qui vont suivre. Mais la plus importante, c'est celle-là, celle du 12 août 2026.
Qu'il ne faut pas louper. Alors, il ne faut pas que cette éclipse aussi, juste après un autre spectacle. Qui est
un ciel étoilé.
Un ciel étoilé, mais avec les météorites.
C'est ça. Il y a un spectacle très important, puisque chaque année, le 12 août, la Terre tourne autour du Soleil en un an, et chaque année, le 12 août, elle se retrouve à la même place. La même place où il y a un nuage de poussière de comète, laissé par une comète qui s'appelle Swift-Tuttle.
Et qui ne bouge pas, en fait.
Ce nuage ne bouge pas, il est là.
Donc
en fait, il est sur le passage de la comète.
D'accord.
Donc quand la comète est passée, elle est passée autour du Soleil, elle a laissé de la matière. Elle a perdu de la matière. Et cette matière, c'est comme un nuage, en fait, qui est là, sur cette orbite où elle est passée. Et la Terre traverse ce nuage de poussière de comète tous les ans à la même époque. Alors ça commence en gros 15 jours avant, ça continue 15 jours après, mais le maximum, c'est le 12 août. Et c'est surtout dans la nuit du 12 au 13, eh bien la nuit de l'éclipse.
Super.
Ça veut dire que là, c'est pareil, il ne vous faut pas d'instruments, n'amenez pas de télescope, c'est pas la peine, n'amenez pas de paire de jumelles, c'est pas la peine, et là, enlevez surtout vos lunettes solaires, oui, après le coucher de soleil, et regardez le ciel. Parce que là, vous risquez de voir pas mal d'étoiles filantes. Une étoile filante, c'est quoi ? C'est de la matière cométaire qui rentre dans l'atmosphère de la Terre et qui va brûler en rentrant dans l'atmosphère de la Terre.
Et qui donne cette traînée.
Voilà, lumineuse. Plus la traînée lumineuse est importante, plus le grain de matière est important. Plus la traînée lumineuse est rapide, plus le grain de matière est léger. D'accord.
Et il est brûlé par notre protection.
C'est ça, l'atmosphère de la Terre. Il rentre, il ne touchera pas la Terre.
Pas de danger.
La matière qui est laissée là par la comète qui est passée, dans les années 70, la comète Swift-Tuttle, était très petite, cette matière-là. C'est de l'ordre du pouce, jusqu'à un peu le poing, quelque chose comme ça. Et donc, ces grains de poussière de comète, en rentrant dans l'atmosphère de la Terre, vont tous brûler. Mais il y a quelque chose qui est peut-être pas mal à faire, depuis chez vous. Laissez une bassine d'eau sur votre balcon.
Oui.
Ou sur votre terrain.
Oui.
À partir du 11 août, vous la laissez là tranquillement. Et le 13 août, vous repérez, vous ramassez cette bassine et vous allez vous rendre compte. Alors, il vous faut un tamis très important avec un aimant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a de la matière qui va se déposer sur cette petite bassine d'eau. Et cette matière, c'est peut-être de la poussière cométaire qui a continué de brûler et qui s'est posé tranquillement sur le sol terrestre. Et vous en aurez peut-être ramassé un tout petit peu. Cette matière vient de l'espace et c'est des grains de poussière de comète, de cette fameuse comète Swift-Tuttle, qui est passée dans l'espace et qui a tranquillement pulvérisé un peu le centre de notre planète Terre.
C'est incroyable. Vous nous faites rêver, Philippe Pouzet. Donc, cette journée du 12 août est importante. Je pense que vous devez regarder l'application Météo France à peu près deux ou trois fois par jour pour être sûr que, bon, même si on est un petit peu, pour être sûr que, effectivement, on ne soit pas.
Voilà, mais c'est l'astronomie, c'est la force de l'astronomie, c'est le but de l'astronomie. On est tenu par le temps, on est tenu par la météo qui est au-dessus de nous. Oui, il se peut que ce soit couvert, il se peut qu'on ne voit rien. Mais c'est le propre de l'astronomie, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu de l'astronomie. On a quelque chose qui est au-dessus de nous, les terriens, qui s'appelle l'atmosphère, qui part de 20 km jusqu'à 400 km, avec des nuages qui peuvent parfois venir nous perturber. Eh bien, c'est le cycle normal de la vie sur Terre, et il faut... C'est un jeu entre les nuages et nous. C'est pour ça que, par exemple, sur la totalité de l'éclipse, il faut être mobile, il faut pouvoir avoir une voiture pour bouger. En cas d'orage, évidemment, le site sera fermé, le site du Pic du Gers sera fermé, puisqu'on ne peut pas permettre de faire monter du monde avec le funiculaire, en sachant que le site est orageux. Donc ça, c'est un site de sécurité. Mais là, on verra, sera le 12 août. Mais allez, on va croiser les doigts et on va se permettre d'imaginer qu'on aura une belle éclipse et une belle nuit des étoiles après.
Deux mots sur cette journée que vous faites, enfin, fin d'après-midi que vous proposez au Pic du Gers. Alors malheureusement, effectivement, vous l'avez dit, c'est complet. Hein,
c'est ça.
Il fallait réserver
ça.
450 places. Et qu'est-ce que vous allez proposer aux gens? Pas que l'éclipse, vous allez aussi toute l'après-midi.
C'est ça. L'après-midi, on va y être avec les télescopes solaires pour que les gens qui sont là sur le site du Pic du Gers voient. Donc on a un télescope solaire qui nous permet de voir la surface et la couronne du Soleil avec les protubérances et puis avec les taches solaires qu'il y a sur le Soleil, donc c'est un très beau télescope. On va s'en servir aussi pendant la totalité. Ce qu'il y a, le pic du Gers, on va commencer à fermer à partir de 17h pour faire descendre le public qui est là, et à partir de 17h, faire monter le public qui a réservé pour l'éclipse. Et à partir de 18h, nous aurons donc une animation spéciale éclipse de la même partie. Les gens qui sont là dans l'après-midi pourront aussi acheter des lunettes solaires, puisqu'on en vendra aussi sur le site, et ils pourront après partir. On va les aiguiller un tout petit peu sur les sites de Lourdes et des environs de Lourdes pour qu'ils voient bien l'éclipse depuis chez eux, parce qu'il ne faut pas paniquer. Le but important, c'est de voir l'éclipse, et vous pourrez la voir si la première condition, si vous avez une paire de lunettes, et la deuxième condition, si vous trouvez un site horizon ouest, donc coucher de soleil dégagé.
C'est magnifique. Merci beaucoup, Philippe Pouzet. Deux mots sur, pour terminer sur votre association qui s'appelle l'Astro Club Lourdes. Vous avez la particularité d'être dans un établissement scolaire. Je crois que c'est unique.
Alors, c'est unique, hein. C'est unique en France, dans un établissement scolaire. On a deux particularités au niveau du club. Il n'y a que des jeunes, de la 6e à la terminale, plus des étudiants. Ils sont 120 au club cette année. On refait les adhésions à partir de septembre. Et la deuxième particularité, c'est qu'on a, on possède un planétarium qui est un appareil numérique qui permet de projeter un ciel étoilé sous une coupole de 5 mètres de diamètre. Et la particularité de ce planétarium, c'est qu'on est en train de le changer. Il est aujourd'hui en 2K. On va prendre en 4K. On a 6 mois là pour arriver. On travaille avec actuellement la société qui nous l'a fourni, qui est la société Immersive Adventure de Barcelone. Et c'est eux qui vont venir nous changer tous les paramètres, donc le vidéoprojecteur, l'ordinateur de bord, oui. Voilà.
Et les images même.
Voilà, ouais. Des images qui seront de meilleure qualité. Beaucoup plus de films, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que pour les jeunes du club, les secondes, en fait, passent un diplôme qui s'appelle le diplôme animateur planétarium, et ils ont un an pour le passer, ce diplôme-là, et cette année, la particularité, c'est que les jeunes de seconde le passeront sur le nouveau planétarium qui sera placé probablement entre septembre et octobre de cette année.
Eh bien, écoutez, je pense que vous viendrez nous dire
ah oui.
Les nouveautés de ce nouveau planétarium. C'est au collège lycée Père-Amal Saint-Joseph à Lourdes. Et vous êtes de profession animateur en pastoral.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Animateur en pastoral. Et c'est ma dernière année avant le départ à la retraite, puisque je partirai à la retraite en juin 2027.
Voilà. Alors, les gens qui écoutent votre voix, qui n'arrivent pas à mettre un visage sur vous, on n'a pas l'impression que vous allez partir à la retraite dans un an. Vous êtes passionnant. Et j'espère que vous allez faire partie de nos experts pour la saison prochaine, où on viendra vous poser des questions basiques sur le soleil, sur les étoiles. Et puis, moi, je vous poserai cette question. La Terre, elle est plate ou elle est ronde?
Ah, très bonne question.
Très bonne question.
Il nous faut juste quelques secondes, mais là, c'est trop tard.
Mais là, c'est trop tard. Voilà. Donc, on vous retrouvera
avec grand plaisir
pour savoir si elle est bien ronde ou si elle est plate. Ce sera une question à notre expert. Merci infiniment, Philippe Pouzet. On rappelle cette belle date, le 12 août. Donc, ça commence à partir de 19h. À 99,077% pour Lourdes, à 20h28. Surtout, ne regardez pas le soleil sans protection.
Protégez-vous.
Ah oui, parce que là, sinon, ça va faire du mal. Et donc, on vous fournirait donc des lunettes. Ou comment on peut se les procurer si on habite un petit peu plus loin? Comment on se...
Là, aujourd'hui, vous en avez dans pas mal de revues. Il y a certaines pharmacies. Vous pouvez vous les acheter directement sur certaines pharmacies.
Parce que je les écoute dans le GRS.
Oui. Dans les pharmacies, en principe, il y en a.
D'accord. Voilà. Surtout.
Surtout équipez-vous.
Équipez-vous. Et pour passer un moment, on espère que le ciel sera dégagé. Et ce jour-là, c'est que du bonheur,
c'est
puisque vous avez une éclipse suivie après des étoiles filantes. Et il faut déjà prendre un papier, un stylo et noter des vœux, parce qu'on dit toujours que
vous êtes fait. Oui.
Et là, allez, faites votre lot de vœux et contemplez.
Après, c'est tout simple pour les étoiles filantes. Vous regardez, vous arrêtez un tout petit peu, vous attendez bien que le soleil soit couché, qu'il fasse nuit. Et si vous regardez d'un côté et que vous n'en voyez pas, il suffit juste de vous retourner parce que vous n'êtes pas sur le bon côté. Voilà. Et là, vous allez en voir.
On est obligé.
Ah oui.
On est obligé.
Il n'y a pas de souci.
S'il n'y a pas de nuages, on est obligé.
Voilà, c'est ça. Vous allez en voir.
Voilà, c'est une science exacte.
Ah, exactement.
Puisqu'on rentrera dans ce nuage.
Exactement.
Ben voilà, les explications sont claires, nettes. Merci Philippe Pouzet.
Avec plaisir.
À bientôt.
Voilà,
à bientôt.
À Philippe Pouzet, donc le président de l'Astro Club de Lourdes. Il est vraiment passionnant. Et merci aussi à Philippe Subercase qui a réalisé cet entretien. Voilà pour cette éclipse solaire à observer donc ce mercredi. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi, à l'écoute de Mathias Terrier avec son invité pour deux passages à Lourdes.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder modestement la question assez fondamentale qui traverse l'Église, ce grand mouvement de catéchuménat, de demande de baptême dans l'Église de la part des adultes. Et nous sommes en compagnie de Guillaume-François Salin.
Bonjour.
On vous doit deux ouvrages aux éditions de l'Emmanuel, « Pour toi qui demande le baptême » et « Pour toi qui a reçu le baptême ». Nous parlerons largement de ces ouvrages dans la deuxième partie de cette émission, parce que vous nous permettez de toucher du doigt ce que j'ai appelé un mouvement de fond, qui bouscule positivement l'Église catholique, toutes ces demandes de baptême. Mais auparavant, j'aimerais que nous parlions de votre histoire. Guillaume-François Salin, au fond, les titres de ces ouvrages pourraient parler directement de vous. Pour vous, Guillaume-François Salin, qui avait demandé le baptême, et pour vous, qui avez reçu le baptême. Parce que vous avez vécu, à l'âge de 18 ans, une conversion à Lourdes. Et alors, cette histoire-là, évidemment, on a envie de l'entendre de votre bouche. Vous venez régulièrement, dorénavant, dans ce grand lieu de pèlerinage. Vous nous parlerez de vos missions actuelles. Vous êtes formateur, vous êtes formé en théologie, vous avez aussi une formation en psychologie. Vous avez un cabinet
Tout à fait.
Dans lequel vous recevez des personnes pour les conseiller, les accompagner sur le terrain de la psychologie. Et puis, vous vous occupez de jeunesse. Vous êtes adjoint en pastoral dans un établissement, dans un lycée. À 18 ans, pourquoi, Guillaume-François Salin, venez-vous à Lourdes alors même que vous n'êtes pas baptisé?
Je pense que j'avais déjà une recherche spirituelle au sens très large du terme, c'est-à-dire que je regardais un peu tous les courants, toutes les différentes religions, aussi les courants un peu philosophiques, spirituels, et j'ai fini par lire l'Évangile, et c'est le seul ouvrage avec lequel j'ai vécu une expérience spirituelle forte en lisant Matthieu, là où Jésus dit dans la continuité de son discours sur la montagne, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et donc j'ai senti la présence vraiment vivante et réelle du Christ. C'est vraiment pas des concepts, j'ai vraiment senti présent là où je lisais des grandes figures comme le Bouddha ou autre, et c'était beau, c'était inspirant, mais voilà, j'avais pas vécu cette présence vivante et agissante encore aujourd'hui. Et donc j'ai continué à poursuivre, et j'étais vraiment passionné par la question du Christ, parce que moi j'étais un peu neutre, hein. J'ai pas vraiment été éduqué dans la foi chrétienne. Moi, la question de Dieu, jusqu'à mes 15-16 ans, elle était absente, en fait, hein. Et finalement, j'en parlais tellement à travers les associations que je faisais, que je rencontrais beaucoup de catholiques engagés dans des associations qui ne parlaient pas forcément de Dieu, mais quand moi je parlais de Dieu, bah finalement, ils en parlaient avec moi. Et au bout d'un moment, j'étais tellement, je pense, fatigant, on va dire, qu'on m'a conseillé d'aller voir un prêtre, très gentiment, voilà, pour échanger sur toutes mes questions. Le prêtre, lui aussi, sentant qu'il n'arriverait pas à s'en défaire, il m'a dit « Tu devrais aller à Lourdes t'occuper de personnes handicapées. » Il y a un pèlerinage chaque année. À l'époque, c'était avec l'hospitalité landaise. J'étais vraiment curieux et en même temps étonné de me dire « Ah ben tiens, les catholiques, ils font des choses. »
Au fond, ce prêtre, il ne répond pas à vos questions. Il vous dit « Va voir ce qui se passe là ou là. »
Alors, il a essayé au début de répondre à quelques questions, puis je pense qu'il a vu qu'il y avait pas une fermeture, mais qu'il y aurait pas de, que ça permettrait pas d'aller plus loin, quoi. Et donc, en effet, là, il se dit, bah, je pense, hein, il faut qu'il vive une expérience de foi à Lourdes, et donc j'y vais, et voilà, j'ai vécu quelque chose de vraiment très fort là-bas.
Et donc, ce que vous vivez à Lourdes, vous pourriez nous le décrire? Vous avez 18 ans, toutes ces questions en tête, plutôt intellectuel, on l'a compris.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Bon, vous venez de faire paraître deux ouvrages successivement, un troisième étant en préparation. Bon, vous êtes un homme de la réflexion. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est va voir, mets les pieds dans la glèbe. Parce qu'à Lourdes, il y a une espèce de belle glèbe de chrétiens qui mettent la charité en acte.
Exactement. Je pense que au début, les premières expériences, j'y allais curieux et en même temps assez réfractaire, assez rebelle, comme un adolescent, jeune adulte peut l'être. Et aussi, je repérais un peu toutes les failles assez rapidement. Je voyais un peu le manque de conviction, de connaissances des autres jeunes de mon âge. Mais finalement, petit à petit, avec l'ambiance du sanctuaire, le contact avec les malades, cette foi simple, vécue, concrète, incarnée, avec des gestes, je me suis laissé un peu emporter. Et mon cœur s'est de plus en plus ouvert, et je pense que c'est vraiment le contact avec une personne handicapée qui était retardée mentale qui m'a aidé à basculer, voilà, qui a fait vraiment la bascule en me demandant de l'accompagner dans les eaux de Lourdes. Donc je peux vous raconter si vous voulez.
Ah oui, racontez-nous. Oui.
Voilà le moment. Alors bon, déjà il faut savoir que moi, ne lisant que la Bible, j'avais un a priori sans le savoir protestant plutôt, donc j'avais plutôt un rejet de la Vierge Marie dans le sens de la prier. Donc ça, j'étais un peu fermé dans le sanctuaire, je comprenais pas la piété mariale, ouais, j'étais un peu en distance. Moi, c'était vraiment que Jésus. Et donc, il se trouve que les eaux de Lourdes, c'est quand même lié à l'apparition de la Vierge Marie. Hein, j'avais compris, donc je voulais pas trop aller me baigner dans les eaux. À l'époque, c'était des immersions complètes encore. Donc, j'étais un peu distant. Et cette personne avec qui je m'entendais bien me dit qu'il voulait que je l'accompagne dans les eaux de Lourdes. Je lui réponds très gentiment non. Il insiste, on s'entendait bien, hein. Et il insiste, je me dis bon, je serais quand même horrible de pas l'accompagner. Donc je l'accompagne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a tiré progressivement. Pour ceux qui voient devant les piscines, il y a des espèces de bancs où on attend et où on prie le chapelet souvent. Et en fait, sur ce banc-là, je lui disais, bah, je t'attends là. Et puis après, il me dit, bah, est-ce que tu peux m'accompagner à l'intérieur? J'ai un peu peur. Et du coup, après, j'ai encore avancé juste avant les rideaux, la piscine. Je l'ai accompagné là. Et je lui dis, bah, je t'attends à l'extérieur de la piscine. Et il insiste encore. Il me dit, non, mais juste devant les bains, est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que lui, ça m'a marqué. Hein, il vivait ça intensément, quoi. Il y avait une forme de gravité, de peur et en même temps de joie. C'était très impressionnant. Et du coup, je lui dis, bon, ok, je t'accompagne devant, je serai avec toi, mais je ne me baigne pas. Et après, on est devant, et vous savez, on commence à se préparer, hein, pour ceux qui savent, hein, on y va nu, hein, quand même, hein, on met une serviette, hein, mais voilà, il y a ce moment-là très solennel. Et, cette personne me dit, au dernier moment, bah, tu vas te baigner quand même. Avec un regard, et là je me dis non mais
je peux pas reculer.
Oui, voilà, c'est ça, il faut que j'y aille, parce que là il m'a vraiment. Puis c'était pas une obligation, c'était tu vas te baigner quand même. Et là je me dis bon, j'y vais. Et l'expérience que j'ai vécue elle m'a marqué, parce que alors les plongeons totales, en fait ça dure qu'une seconde pour ceux qui savent pas. En fait c'est vraiment ça dure à peine une seconde, donc on rationnellement, on n'a pas le temps d'imaginer quelque chose. Enfin, vraiment, on se baigne, on est ressorti, quoi. Et là, à ce moment-là, je suis comme sorti de mon corps. J'étais comme dans un environnement où il faisait tout noir. C'est pas de l'obscurité, mais c'est pas comme si je voyais ça avec mes yeux. Mais j'étais dans un lieu un peu hors du temps. Et il y avait au-dessus de moi la Vierge Marie et Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que je savais où j'étais. J'étais pas au paradis, mais je disais à l'époque, j'étais comme au paradis. Vous voyez, donc j'avais bien une notion que c'était pas le paradis non plus. Et puis j'étais face à Jésus et je me rappelle la première chose que je lui dis c'est trop triste, c'est trop moche ici-bas, emporte-moi. Comme si en fait je savais où j'étais, face à qui j'étais, et je lui disais ben emporte-moi, j'ai pas envie de revenir. Et du coup la réponse, il m'a pas répondu avec des mots, mais c'est comme ça m'a répondu intérieurement, c'était non. Et j'ai pas été triste, je l'ai accepté calmement. Et puis après spontanément je lui dis bah je te donnerai toute ma vie. Voilà, je te donnerai vraiment toute ma vie. Et je suis resté là-dessus, et puis je suis revenu dans mon corps, complètement hagard. Ce qui était assez étonnant, c'est que tout le reste du pèlerinage, j'étais un peu souriant bébête. Vous voyez, un sourire un peu bébête qui ne me ressemble pas. Hein. Voilà, j'étais un peu plus sur la réserve. Et là, j'étais tout souriant, voilà, un peu, excusez-moi du terme, shooté, enfin, dans un peu sur une autre planète, quoi. Et malheureusement, ça c'était pendant le pèlerinage, parce que je me rappellerai, hein, quand on prend les bus pour sortir et qu'on sort de Lourdes, je ressens l'angoisse revenir. L'angoisse de me dire, ben, je vais revenir dans mon quotidien, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Parce que moi j'ai pas d'entourage chrétien en fait, hein, donc j'ai personne à qui parler de la foi. Il y avait mon père qui était ouvert, hein, qui va se faire baptiser après moi. Il était ouvert, on pouvait changer, mais il n'était pas pratiquant, il était lui-même pas baptisé, donc c'était, on a des belles discussions, mais ça allait pas plus loin que ça pour une pratique, une vie religieuse, donc voilà. Et je pense que j'ai eu un début de guérison à Lourdes, parce que j'avais une vie difficile, et c'est pour ça que j'avais dit que je voulais pas revenir. Voilà, moi je me rendais compte de la méchanceté des hommes, des femmes, de la propre méchanceté dans mon cœur, des limites du monde, et le parallèle avec Lourdes où tous les gens sont c'est assez exceptionnel, quoi, cette gentillesse, cette ouverture. Puis le monde de tous les jours où les gens peuvent être durs, hein, même les jeunes de mon âge. Donc voilà un peu cette expérience. Puis après, je suis revenu, je pense, tous les ans. Là, cette année, je suis venu, pour vous dire, 4 fois à Lourdes.
Donc, vous aviez 18 ans. Depuis 12 ans, vous ne cessez de revenir à Lourdes. Mm.
Vous avez beaucoup avancé, puisque vous avez reçu le baptême, vous avez écrit ces ouvrages pour vous adresser à ceux-là même qui le demandent aujourd'hui.
Exactement.
Donc, pour toi qui demande le baptême, et puis pour toi qui a reçu le baptême, c'est-à-dire comment ne pas rentrer dans ce trou d'air qui peut faire qu'on s'éloigne de nouveau de la vie spirituelle et de la vie de l'Église. Pour rester sur l'expérience de Lourdes, vous parliez de l'eau de Lourdes, donc, qui a été découverte à l'indication de la Vierge Marie, au creux de la grotte, qui a dit à Bernadette, allez boire à la source et vous y lavez. C'est ce que vous avez fait.
Finalement, oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous diriez de ce Lourdes que vous nous décrivez? Au fond, il peut s'adresser à tout un chacun, quelqu'un qui n'a aucun prérequis, qui arrive tel qu'il est. Il n'entre pas dans un univers d'initié. Il va être touché, il peut être touché par ce qu'on appelle parfois la grâce de Lourdes.
Je pense qu'à Lourdes, il y a plusieurs entrées. Ceux qui sont à la recherche ou curieux du côté spectaculaire vont y trouver leur compte. Ceux qui sont à la recherche vraiment d'une dimension fraternelle, de partage, vont aussi être touchés. Ceux qui sont touchés par les gestes, les bougies, l'eau, les processions, les gestes, le corps qui bouge beaucoup aussi. Je trouve qu'à Lourdes, finalement, c'est la personne entière qui est mobilisée. Ça peut être autant intellectuel parce qu'il y a des enseignements, ça peut être psychologique, émotionnel à travers le partage et le corps. Parce qu'à Lourdes, on peut bien marcher, le sanctuaire est assez grand, il y a des processions, il y a des gestes à faire. Donc je trouve que ces trois dimensions sont invoquées et donc peuvent permettre de rejoindre beaucoup de personnes, qu'elles soient dans une démarche intellectuelle ou pas, qu'elles soient d'un milieu populaire ou pas. Voilà, c'est un lieu, je pense, qui peut toucher beaucoup de personnes.
Y compris les jeunes.
Et y compris les jeunes, tout à fait.
Que vous amenez régulièrement à Lourdes.
Voilà, c'est ça. Et généralement, je ne fais pas que des retraites, des accompagnements qu'à Lourdes, mais je remarque qu'à Lourdes, c'est là où ils sont le plus touchés, de mon expérience.
Nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez bien, Guillaume-François Salin. Juste après la pause, nous reparlons là spécifiquement de ces deux ouvrages qui, je le disais en commençant, sont un peu votre expérience, mais pas que, s'adressent plus largement à tous ceux qui demandent le baptême, à aussi l'Église, les croyants. Que font-ils de ces demandes? Comment accompagnent-ils aujourd'hui? Et puis, pour ceux qui ont reçu le baptême et qui peuvent aussi avoir du mal à continuer et dans une certaine constance et une durée sur ce qu'ils ont vécu de façon très intense par le baptême. Ces deux ouvrages sont parus aux éditions de l'Emmanuel. Nous en reparlons juste après ceci.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nous recevons aujourd'hui l'auteur de ces deux ouvrages. L'un concerne ceux qui demandent le baptême et puis ceux qui ont reçu le baptême, comment continuer dans la foi du baptême. Merci Guillaume-François Salin d'être avec nous. Vous qui accompagnez de la jeunesse au sein d'un lycée, puisque vous êtes adjoint pastoral, dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux.
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Vous avez aussi un cabinet où vous recevez des personnes pour les accompagner sur le plan psychologique, puisque vous êtes formé dans ce domaine. Et vous avez une formation en théologie. Votre histoire personnelle, c'est une conversion, j'ai envie de dire fulgurante, à Lourdes.
Oui.
Même si vous faisiez du chemin avant sur les questions spirituelles, et à 18 ans, quelque chose de bascule ici à Lourdes, en vous plongeant dans l'eau de la source, dans le bain aux piscines de Lourdes. Et 12 ans après, vous vous servez de Lourdes, j'emploie volontiers ce mot, comme vraiment un lieu qui peut annoncer la foi de façon simple, populaire, large.
C'est ça, tout à fait.
Et vous vous êtes aussi mis à écrire un peu l'expérience du baptême et puis l'expérience de l'après-baptême. Diriez-vous qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a 20 000 baptêmes d'adultes chaque année en France, l'Église catholique fait ce qu'il faut? Est suffisamment réceptive? Les catholiques ne sont-ils pas trop jargonnants, compliqués entre eux, tristes parfois, alors même que leur foi devrait les conduire à être joyeux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est insuffisamment réceptif à ce mouvement de fond?
Alors, je
des demandes de baptême.
Oui, je distinguerai le fait d'être réceptif et est-ce qu'on fait ce qu'il faut. De mon avis, on ne fait pas ce qu'il faut. On en est très loin. Et je suis heureux de tout ce qui se passe, de ce qui est mis en œuvre. Je vois qu'il y a une vraie volonté, donc une vraie réceptivité du phénomène. mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces deux ouvrages. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'on n'est pas au rendez-vous de tout ce que l'on devrait faire. Alors ce sera jamais parfait, tout le monde a des limites, les paroisses font ce qu'elles peuvent, il y a plein de gens engagés qui donnent toute leur vie, qui donnent beaucoup, mais voilà, je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de travail et qu'il faut surtout pas se dire, et c'est ce que je dis partout où je témoigne, que c'est gagné, que c'est bon, qu'on fait ce qu'il faut. Je pense qu'on en est encore loin. Beaucoup de catéchumènes et de néophytes, du coup, donc ceux qui ont reçu le baptême, ne persévèrent pas dans la foi. C'est un constat largement partagé, peut-être pas partout, mais en tout cas c'est celui que j'entends le plus souvent, et malheureusement c'est un nombre assez conséquent. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut se réjouir, mais il ne faut pas se dire que c'est gagné, que tout est fait. On a encore beaucoup de travail au niveau pastoral, paroissial, diocésain et de l'Église en France en général. Parce que c'est un phénomène, je précise, c'est un phénomène plutôt français, américain et anglais. Les Espagnols, Italiens sont moins concernés parce qu'il y a encore beaucoup de baptêmes d'enfants. Donc c'est un phénomène, voilà, en Occident, dans une part de l'Occident et particulièrement en France.
Qu'est-ce que vous diriez de ce paradoxe d'une Église catholique minoritaire, voire ultra-minoritaire, hein,
oui,
en France, aujourd'hui,
minoritaire, oui,
moins de 10% de pratiquants. Et puis ces demandes de baptême, très conséquentes. Et puis, on ajouterait un contexte qui, pour une bonne partie, n'est pas très favorable à l'Église catholique, dû à ses égarements, ses erreurs, ses fautes, hein, aussi. Tout cela est là, et pourtant, les gens frappent à la porte. Comment vous voyez-vous ça? Est-ce que ça vous paraît de l'ordre du mystère, ou bien vous dites, bah, moi je l'ai vécu?
Alors pour moi, ce n'est pas que de l'ordre du mystère. Bien sûr, il y a toujours l'action de Dieu qui nous dépasse, mais je pense qu'il y a des choses très concrètes. La première chose, c'est que par rapport à l'époque où moi je me suis fait baptiser, où il n'y avait pas encore beaucoup de catéchumènes, je crois que de mémoire, il y en avait quelque chose comme 2000, 3000 à l'époque où je me suis fait baptiser. C'est monté à plus de 10 000 en termes d'adultes, 21 000 en tout cette année, en 2026. C'est qu'en fait, moi à l'époque, j'entendais jamais parler du christianisme, sauf pour le critiquer. Sauf pour dire que c'est la pire horreur de l'histoire de l'humanité, vraiment, hein, je n'exagère pas. Moi, j'avais un a priori très négatif envers les catholiques, et pourtant, ils ne m'ont jamais rien fait. Jamais un catholique m'a fait du mal. Jamais un catholique s'est mal comporté avec moi. Mais de manière très subtile, à travers les médias, les séries, les films, vous voyez, de manière très, très subtile, en fait, hein, il y a un anti-catholicisme, et j'insiste, anti-catholicisme, très prégnant, qui fait qu'en fait ça va chez beaucoup créer un anti-catholicisme un peu primaire, un peu inconscient, qui est souvent pas conscientisé, hein. Et donc plus ce que vous avez dit, hein, des erreurs, hein, des manquements, hein, dans l'histoire de l'Église, hein, qui ont pu arriver, hein. Et alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Moi, ce que j'ai remarqué, après je suis devenu accompagnateur de catéchumènes, j'ai vu la première vague, et en fait ce qui s'est passé, c'est déjà l'après-Covid. Là, il y a eu une espèce de réaction d'après-Covid. La deuxième chose, c'est que par le biais des réseaux sociaux, des médias, on a entendu de plus en plus parler d'un catholicisme plus ouvert, plus direct, plus assumé. Moi, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, quand je cherchais une vidéo qui parlait du catholicisme et qui était grand public, qui n'était pas juste des catéchèses, c'était plutôt difficile, hein. Donc j'en trouvais pas beaucoup. Et là maintenant, à travers les médias, etc., ben, en fait on en entend parler et on entend un autre discours. Alors ce n'est pas les réseaux sociaux qui convertissent, c'est plutôt les réseaux sociaux permettent aux personnes d'entendre parler du christianisme sous un autre jour. Et après, c'est une expérience spirituelle qui va être en posant une bougie à l'église, en priant, en lisant le Nouveau Testament. Et donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup plus du catholicisme, pas que en bien, mais on en parle aussi en bien plus qu'avant.
Ce livre, Pour toi qui demande le baptême, il s'adresse évidemment à des personnes qui sont dans cette recherche et cette demande, mais également à tous les catholiques.
Tout à fait.
Que ne font-ils pas qu'il faudrait qu'ils fassent? Alors, sans être grand donneur de leçons, c'est pas
non,
ça le sujet.
De toute façon, je ne compte pas.
Mais tout de même, qu'est-ce qu'on fait de pas très bien, de pas très ajusté?
Alors, je m'inclus dedans et j'en parle dans l'ouvrage parce que maintenant, je me considère pleinement catholique. Ça fait plus de 10 ans. Et donc, ce que je décris dedans, en fait, je vais aussi me viser aussi parce que j'ai vu certains de mes comportements à moi. Et donc, moi, je décris ce qui me semble 3 maladies spirituelles dans l'Église d'Occident qui sont dues à la fois à l'histoire. Il y a une histoire difficile. Voilà, il y a depuis la Révolution. Voilà, il y a un contexte historique difficile pour le catholicisme, des choses aussi dont elle est responsable. Et donc, voilà, les catholiques font ce qu'ils peuvent.
Ils sont héritiers de ça.
Et ils sont héritiers de ça, tout à fait. Et donc, les trois maladies spirituelles que je repère, qui vont beaucoup freiner les catholiques et sur lesquelles nous devons, par un souci de conversion, de travailler dessus. Le premier, ce serait la tiédeur, ce que j'appelle la tiédeur. Donc la tiédeur, c'est une maladie spirituelle qui est le manque de zèle, de motivation à faire le bien que l'on pourrait faire. Donc le bien, ce n'est pas que un acte de charité et des pauvres, etc., mais c'est aussi annoncer l'évangile, assumer sa foi, s'engager dans sa paroisse, voyez, des choses concrètes comme ça. Donc on sent en France, mais c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est un vieux, ça fait déjà pas mal de temps que c'est inscrit, hein, une certaine mollesse, une certaine tiédeur. Mais parce que le catholicisme est tellement attaqué, il y a tellement de critiques, c'est tellement éprouvant d'être pleinement catholique.
Qu'on est en mode protection un peu.
Exactement. Protection, repli, retrait. Voilà, les personnes, voilà, au bout d'un moment, des fois peuvent se protéger, en effet. Il peut y avoir aussi un manque de zèle, une certaine mollesse du fait du contexte. Donc ça, ce serait vraiment la première maladie que j'entends le plus des catéchumènes, où ils disent les catholiques sont mous. Il faut dire ce qui est. En France, c'est assez mou, en fait, hein, par rapport à d'autres pays. Alors les autres pays n'ont pas la même histoire. Vous voyez, c'est sûr que le catholicisme en Amérique latine n'a pas la même histoire que nous. Donc voilà. La deuxième, ce serait la mondanité. Parce que par mondanité, je vais plus loin qu'une classe sociale, même si aujourd'hui, le catholicisme, malheureusement, s'est beaucoup éloigné des classes populaires depuis les années d'après-guerre. Hein, il y a eu un éloignement progressif des classes populaires pour plein de raisons que j'aurais pas le temps d'aborder là. Je parlerai par mondanité plus largement d'un entre-soi, d'un enfermement. En fait, les catholiques, par protection, liés à cette tiédeur sûrement, restent entre soi, se protègent, ont les mêmes codes, les mêmes façons de parler, et sans s'en rendre compte, en fait. Et quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, en fait, si on n'adhère pas à ça ou qu'on est différent, et ben très discrètement, pas de manière frontale souvent, on va être mis de côté. Et ça, beaucoup de catholiques, enfin de catéchumènes me le témoignent trop souvent, qui sont mis de côté de manière subreptice.
Et la dernière maladie
L'angélisme. C'est un discours déconnecté, non incarné. Alors, à Lourdes, je trouve que ce discours-là n'est pas présent. Hein. Je ne trouve pas ça angélique à Lourdes, c'est le contraire. Mais en tout cas, l'angélisme, ce serait une manière déconnectée de parler de la foi, non concrète. On dit pas les choses concrètement, on est sur des discours un peu perchés, un peu déconnectés. Et ça n'a rien à voir avec la profondeur. Les pères de l'Église peuvent être très profonds et en même temps très concrets. Quand on lit Augustin, ça peut être très profond, mais on comprend, en fait, on sait de quoi il parle. Aujourd'hui, voilà, et je pense que ces discours un peu déconnectés peuvent être parce qu'il y a une peur de dire les choses concrètement, directement. Je donne un exemple. Un catéchumène, ça arrive souvent, c'est pour ça que je donne cet exemple, un catéchumène va demander de l'aide sur telle situation, et puis directement, on va dire, bah, il faut que tu discernes, prie l'Esprit Saint, il va t'aider. Alors oui, il faut discerner, oui, l'Esprit Saint va m'aider.
Il demande de l'aide.
Donc. Mais là, je demande une réponse concrète à une situation concrète. Ouais, donc ouais. Est-ce qu'on peut avoir un discours mobilisateur qui parle, quoi, qui soit concret?
Bon, merci pour votre franchise, Guillaume-François Salin. Et puis, une fois qu'on a reçu le baptême, parfois, on se décourage. On pense que la grâce du baptême va nous faire traverser toutes les difficultés. Et non. Et pas facile. Ça aussi, vous le décrivez à travers ce deuxième ouvrage, pour toi qui as reçu le baptême.
Tout à fait.
Il faut accepter qu'il y ait des parties de ce qu'on appelle du désert, où on ne voit pas trop où est l'horizon, enfin, c'est compliqué.
En soi, dans le baptême, on reçoit toutes les grâces nécessaires à notre salut. Mais il y a ce qu'on appelle les dispositions, c'est-à-dire est-ce que nous-mêmes, nous allons accueillir pleinement cette grâce? C'est-à-dire ce cadeau, cette énergie, cette force de Dieu. Et donc, il peut y avoir dans les moments de bas, dans les moments d'épreuve, nos dispositions, c'est-à-dire notre souhait de nous convertir davantage, qui va être freiné, qui va être remis en question. Et donc, en effet, il peut y avoir, et il y a très fréquemment, des moments de désert, des moments un peu de vide. Et puis surtout, on passe d'un accompagnement, d'un parcours où on est très accompagné, chouchouté, je dis le terme coucouné, hein, à en fait maintenant, tu dois pleinement avoir une vie catholique, un peu ordinaire, plus
présence
ordinaire.
De passage.
Aussi, on a encore
à
beaucoup travaillé sur l'après catéchuména. Voilà, il y a encore beaucoup
pour
de
mieux connaître présence, tapez www.radioprésence.com
de ceux qui ont été baptisés.
Merci beaucoup, Guillaume François Salin. Ces deux ouvrages, Pour toi qui demande le baptême, paru aux éditions de l'Emmanuel, Pour toi qui a reçu le baptême, même éditeur. On vous souhaite bon vent, bon retour chez vous, puis vous revenez vite à Lourdes, parce que je pense que c'est aussi un port d'attache pour vous.
Oui.
Oui. Merci, au revoir, à bientôt.
Merci, au revoir.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Cinq mois de guerre en Iran et des stocks d'armement qui s'amenuisent aux États-Unis.